voilà, revenu sur l'antenne d'Agora, donc pour une deuxième partie, et on va continuer en BD, et toujours pour commencer dans la collection Rivage Casterman Noir. Alors cette fois-ci, on n'est plus du tout à Cuba, mais en Suède, avec un roman qui s'appelle, et une BD qui s'appelle aussi Le policier qui rit. Donc le roman original était de Maj Sowal et Peter Walou, avec évidemment les réserves sur la prononciation. Et la BD donc a été adaptée par Roger Seiter au scénario et Martin Vio au dessin. Elle est publiée donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la collection Rivage Casterman Noir. Elle vaut 18 € et 122 pages. Le roman qu'on choisit donc d'adapter, Seiter et Vio, fait partie de la série des 10 enquêtes de l'inspecteur Mattenbeck et de sa brigade de Stockholm. Alors, le policier qui rit est le troisième ou quatrième épisode, comme on dirait maintenant, par rapport aux séries télé. Alors, le début de l'histoire, un massacre au fusil mitrailleur dans un bus, un soir pluvieux de novembre 1967. Très inquiétant dans un pays, à l'époque au moins, réputé calme comme la Suède. Surtout, en fait, que parmi les victimes, il y a un flic. Et donc, Martin Beck et ses adjoints vont enquêter sur ce carnage et chercher à savoir ce que faisaient leurs collègues dans ce bus. Alors, pour les besoins de la BD, les adaptateurs ont réduit un petit peu l'intrigue, mais ils ont quand même vraiment parfaitement réussi à rendre l'impression de lenteur qui émane du roman. Le dessin a aussi un petit côté vintage des années 60, avec des couleurs pastel assez jaunes. Le dessin est un peu naïf, avec des visages très carrés. Ce n'est pas du Tintin, mais on est quand même assez loin des BD hyper réalistes d'aujourd'hui. Alors l'adaptation reste très fidèle au choix des deux auteurs suédois, Walou et Sowal, qui montrent dans pratiquement toute la série les revers de la social-démocratie. Et il réussit aussi l'adaptation à montrer la description minutieuse de l'enquête qui intègre la vie de chacun des membres de la section de Martin Beck, un peu à la manière du 87e district de Ed McBain. Et ce Martin Beck, en fait, bien qu'il soit sur la couverture en très gros plan, qu'il soit aussi le policier qui rit, en fait, là, pas trop souvent, c'est pas vraiment le personnage principal de la BD. Ni du roman d'ailleurs, il partage la vedette avec tous les inspecteurs. Alors vraiment, là, les dessins de Martin Vio, j'en ai parlé tout à l'heure, rendent vraiment cette ambiance, en plus c'est l'hiver à Stockholm, donc il n'y a pas une franche gaieté dans la rue, ni dans les personnages, mais ils sont par contre très très bien campés, rendus. Alors Roger Seiter, lui, c'est un vieil habitué du scénar de bande dessinée. Il a fait entre autres la série Fog ou la série HMS. Mais par contre, c'est la première incursion de Martin Vio dans le genre. Et pour une première, c'est plutôt réussi. C'est une preuve d'un certain sens que Matt et François Guérif, qui sont les deux directeurs de collection, ont à la fois l'œil pour découvrir les jeunes talents et aussi le courage de leur donner une chance. Et il faut noter que Vio a fait par ailleurs un album pour la jeunesse très très sympa qui s'appelle Papa on les double, c'est une famille qui part en vacances et évidemment avec un camion devant, et ça commence comme ça, je vous laisse le découvrir. Donc je rappelle, Le policier qui rit de Joal et Walou, adapté donc par Roger Seiter et Martin Vio dans la collection Rivage Casterman Noir. Alors on va rester dans la bande dessinée et avec aussi une adaptation. Donc, une adaptation de La Comédia des ratés par Olivier Berlion, paru chez Dargaud. Alors, on avait déjà parlé de cette adaptation sur cette antenne à la parution du tome 1. Et là, est paru il y a quelques jours, quelques semaines, le tome 2. On l'attendait depuis un moment. Et on retrouve donc, et ce tome 2, je précise, c'est le dernier, on retrouve donc Antonio Poltinelli dans la petite ville de Sora, en Italie. Alors, je rappelle un peu le premier tome, le début de l'intrigue. Antonio, c'est un fils d'Italien immigré dans une banlieue parisienne. Et il a hérité d'un copain, Dario, qui est récemment défunté, et défunté plutôt violemment. Il héritait d'une vigne dans leur village d'origine, Sora donc, qui se situe dans la région du Latium, au sud de Rome. Antonio s'y rend donc, ça c'est dans le premier tome. Et le tome 2 commence le jour de la fête du Gonfalone, qui est dans ce coin-là, vers Sora et dans les environs, une espèce de grande kermesse entre les 5 villages alentours, avec évidemment les classiques affrontements entre les mâles de chaque patelin qui veulent prouver que le leur est le mieux. Mais c'est extrêmement festif, ça finit bien sûr en dégustation de vins et victuailles diverses. Mais voilà, en plein milieu des manifestations plutôt joyeuses, la chapelle située sur la parcelle d'Antonio prend feu. Mais miracle, la statue de Sant'Angelo, qui est le saint du coin, cette statue, elle est préservée. Et encore mieux, ses yeux pleurent. Ils pleurent du sang. Et en fait, ce sang n'est autre que le vin de la vigne d'Antonio. Alors commence une grande aventure, une grande poursuite, car tout le monde semble vouloir prendre cette vigne, vouloir reprendre cette vigne. Alors il y a les mafieux, les ecclésiastiques, les élus locaux et bien d'autres encore. Alors la première partie, donc le tome 1, en fait, était relativement lente en forme d'exposition. Il nous présentait tous les personnages, il faisait voyager donc le Antonio de Paris vers l'Italie. Par contre, la deuxième partie va à 100 à l'heure et tout va se régler très très vite, en 75 pages cependant. Alors une fois de plus, Berlion réussit à sans faute, tant dans l'adaptation, où il réussit à rendre le côté polar, le côté comédie à l'italienne, la chronique sociale qui existait dans le roman de Menacquista, mais aussi dans ses dessins, évidemment, parce que c'est lui qui a fait l'adaptation aussi bien du scénario que des dessins. Ses dessins sont très importants, c'est une BD après tout, et il réussit à rendre l'ambiance de l'Italie, ce petit village dans les années 60-70, c'est rendu avec une grande précision, aussi bien dans les décors du village que dans les décors de la campagne, de début de montagne, de cette petite chapelle qui brûle, tout ça. C'est vraiment très très bien fait. Et aussi, les personnages sont particulièrement réussis. Les mafiosos, tout comme les curtons, fussent-ils arrivés en direct du Vatican, ont vraiment des trognes de circonstances. Là, entre autres, une scène qui ne met ni en scène le Vatican ni les curtons d'ailleurs, mais c'est une poursuite en Vespa, une Vespa d'époque, qui en quelques cases est un modèle du genre. Et Berlion réussit à rendre en plus ce mélange d'humour et de tendresse qui caractérise souvent les polars de Menacquista. Et en dessin, c'est pas toujours évident, et là il le fait parfaitement. Donc je pense que vous l'avez compris, on a vraiment beaucoup aimé cet album et on ne peut que vous le recommander, surtout que comme disait Corinne tout à l'heure, on commence bientôt le calendrier de l'Avent, donc on va découper les petits chocolats et plutôt peut-être pourquoi pas prendre une BD par jour. Et bon, évidemment, autant offrir ou s'offrir les deux tomes. Alors les deux BD sont des BD assez classiques. Par rapport à certaines dont on a parlé, c'est vraiment des BD très casés, avec des petites bulles, mais vraiment, c'est deux très belles adaptations. On parlera peut-être une prochaine fois d'une BD au scénario original. En attendant, je vais laisser la parole, enfin plutôt le chant, un petit peu de musique, donc un monsieur qui est à la mode en ce moment, et il faut dire que c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment très bon. C'est un Américain d'origine palestinienne, comme son nom va vous l'indiquer. Il s'appelle Hani Al-Khatib, et le morceau s'appelle Good Feeling. C'est un morceau inédit de son dernier album, et vraiment, c'est excellent. Écoutez cette guitare.
our lowest fears.
Alors, celui-là s'appelait Good Feeling, mais moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Outback Hotel, la reprise de la célèbre chanson, ça décoiffe et c'est vraiment très original. Très original aussi, le dernier livre dont je vais vous parler maintenant. Ce livre s'appelle Cadillac Beach, c'est de Tim Dorsey, c'est un roman traduit par Jean Pécheux, et il est publié, comme tous les autres romans de Tim Dorsey, chez Rivage Noir. Et on retrouve le personnage de Tim Dorsey, Serge Storms, identique à lui-même, détestant à peu près toute l'humanité, mais il est quand même fou de son état, la Floride, qui lui rend bien d'ailleurs. Et fou, c'est quand même un mot qui sied plutôt bien à Serge. Il carbure aux médicaments, et en gros, il peut passer en quelques minutes de joyeux de rire à redoutable psychopathe. Ça, c'est évidemment quand il oublie ses médocs. Alors après, raconter l'histoire, les histoires en fait de ce roman luxuriant et foisonnant, ça tient plutôt de la gageure. Je ne m'y risquerai même pas. D'ailleurs, au risque de mécontenter Serge, ça non plus, je ne m'y risquerai pas. Bon, allez, quand même, quelques morceaux du puzzle. On est en 1964, le grand-père de Serge, bookmaker, est impliqué dans un énorme hold-up et puis il va mourir mystérieusement quelques semaines plus tard. Du hold-up, une série de diamants ne réapparaîtront pas après le braquage. Des années plus tard, donc en gros à peu près maintenant, le petit-fils décide de retrouver les pierres précieuses. En même temps, pour se financer, il lance sur Internet une entreprise de tourisme un peu spéciale. Je cite... Fondée sur les principes de la nouvelle économie, du respect de l'environnement, du développement spirituel et de la prise en compte de l'héritage historique. Donc cette entreprise, il la fonde avec son copain Lenny, qui est au moins aussi fondu que lui. Et en gros, le projet, c'est d'emmener quelques vacanciers en goguette dans des virées hautement improbables. Tellement improbable que le risque, dès leur première excursion, ça va être de flinguer un pont de la mafia. Laquelle mafia est-elle aussi sur les traces des diamants? Mais en fait, pour tout dire, le fil rouge de tout ce roman, c'est le rêve de Serge. C'est quand même de faire revenir l'émission Today, une émission mythique aux États-Unis, en Floride. Son état bien-aimé, comme j'ai déjà dit. Jusqu'où n'irait-il pas pour cela? Parce que quand même, je le cite, c'est la règle numéro un de l'existence. Toujours et en tout cas, fais ce qu'il faut pour te sentir mieux. Excusez-moi, donc acte. Quelles que soient les conséquences de des actes de Sartan. Le lecteur sera légitimement en droit de se demander, à la lecture de Caldiac Beach, quelle substance permet à Tim Dorsey. Cette écriture survitaminée, moi je serais bien de prendre quelques substances d'ailleurs pour ma gorge, survoltée, une écriture et un rythme qui ne s'essouffle jamais, sans oublier l'inventivité toujours renouvelée de situations et de gags plus délirants les uns que les autres. Multitude de personnages que vont croiser Lenny et Serge, des Beatles à Mohamed Annie, sans oublier l'étonnante mère de Lenny qui est vraiment à elle toute seule un personnage à portraiturer. Les dialogues fusent, la logorée verbale de Serge s'envole vers des sommets insoupçonnés, en gros pour le plaisir du lecteur, qui en fait aimerait peut-être bien trouver la même substance que l'auteur Tim Dorsey qui lui permet cette écriture et ce talent. Mais bon, on va pas trop parler de ces substances-là. Alors, c'est le 6, 7, 8e roman où on retrouve Serge Storms et on peut les lire complètement dans le désordre. De toute façon, il y a dans les précédents des personnages qui meurent, qui réapparaissent maintenant. Donc c'est pas bien grave de les repérer dans l'ordre, mais si vous voulez, vous en avez six autres avant. Le premier, c'est Triggerfish Twist, Florida Roadkill, Hammersham, Ranch Motel, Stingray Shuffle, Orange Crush et Cadillac Beach, donc le dernier. Et voilà, finalement, on tombe à 6. Bravo Corinne, tu sais compter. Eh bien, je sais compter qu'en tout cas, c'est bientôt la fin de notre émission. Donc je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt donc pour de nouvelles découvertes polars, aussi bien dans la BD que dans le roman. Au revoir. Agora